podcast de Radio Vatican.
3 ans de guerre en Ukraine le 13 avril. Le pays est entré dans sa 4e année d'un conflit meurtrier entre forces ukrainiennes et les rebelles pro-russes dans l'est du pays. C'est à cette date, en 2014, que les autorités de Kiev lançaient leur première opération militaire à Donetsk et à Lugansk. Dans le même temps, la Russie annexait la péninsule stratégique de Crimée. Les deux accords de paix de Minsk pour trouver une issue à la crise ukrainienne sont des échecs. Les cessez-le-feu sont systématiquement violés. Au total, les combats ont fait plus de 10 000 morts, selon l'ONU. 3 ans plus tard, le conflit dans l'Est est aujourd'hui gelé et il paraît très difficile de trouver une issue à la crise ukrainienne, comme l'explique Xavier Folbucht. Il est spécialiste de la Russie, chercheur à l'Université catholique de Louvain.
C'est un conflit qui est encore très très loin d'être résolu, tant sur le terrain que dans les relations interétatiques des États qui ne sont pas impliqués directement. On n'a absolument pas d'issue favorable. Sur le terrain, on est toujours dans une guerre avec une ligne de front, avec des morts de part et d'autre, mais où les avancées ne sont plus très importantes de part et d'autre. On n'a plus vraiment de conquête ou d'offensive et de contre-offensive. Par contre, on est dans une situation un peu ambiguë, où à la fois les territoires du Donbass se sont proclamés indépendants, mais ne sont pas reconnus comme tels, mais pourtant ils occupent une partie du territoire. Et de l'autre côté, on a l'Ukraine qui est l'autorité légitime et légale et reconnue sur ces territoires, mais qui ne parvient pas à en reprendre le contrôle. Donc, sur le terrain, il n'y a rien qui bouge. Et hors du terrain, dans les discussions diplomatiques, on a évidemment la Russie qui est directement impliquée, qui ne fait pas grand-chose pour faire évoluer le conflit, parce que la manière dont ça se met en place actuellement l'intéresse plus, ou l'avantage plus peut-être, qu'un retour à une situation normale, à une situation pacifiée.
Justement, ce conflit il a été provoqué donc, en 2014 par le président Yanukovych qui décide de se rapprocher de la Russie, ce qui entraîne un soulèvement populaire pro-européen, etc. Aujourd'hui, avec ce président d'aujourd'hui, Poroshenko, quels sont les liens avec Moscou? Est-ce que Moscou s'implique pour trouver une résolution de la crise ukrainienne?
La Russie, en fait, a ici un rôle un peu particulier, puisque la Russie se dit être un acteur extérieur, un acteur neutre et un acteur impartial qui veut aider à trouver une solution. Mais en réalité, la Russie est une partie au conflit, puisque la guerre qui a commencé dans l'est de l'Ukraine en avril 2014, on le sait, a été vraiment alimentée, provoquée par la Russie qui a envoyé des troupes, qui a envoyé du matériel, qui continue à soutenir les insurgés sur le terrain avec des soldats, avec du matériel, avec des informations, avec du soutien financier afin d'alimenter le conflit. Donc la Russie, elle est partie prenante. Il faudrait plutôt voir le conflit en Ukraine comme un conflit entre l'Ukraine et la Russie que comme une espèce de guerre civile, parce que c'est pas vraiment une guerre civile. Du coup, la Russie, elle a ses propres intérêts et c'est pour ça qu'elle ne cherche pas vraiment solution, parce que le maintien d'un conflit gelé en Ukraine est plus intéressant pour elle pour garantir ses propres intérêts en déstabilisant l'Ukraine, en s'assurant que l'Ukraine ne se tourne pas trop vers l'Union européenne, en maintenant une pression sur ses voisins comme elle le fait en Géorgie, comme elle le fait en Moldavie. Et c'est pour ça qu'on ne parvient pas à trouver une solution, mais la responsabilité en incombe en grande partie à la Russie, même si effectivement l'Ukraine n'est pas non plus innocente là-dedans, puisque l'Ukraine peine à mettre en place les réformes qui sont nécessaires, elle peine à consolider son État et à déjà rendre l'État attractif pour les Ukrainiens qui ne sont pas à l'aide de l'Ukraine, alors encore moins pour ceux qui se trouvent dans le Donbass, et toute une série d'obligations diplomatiques qui lui ont été demandées dans les accords de Minsk ne sont loin d'être respectées tant par l'Ukraine que par la Russie.
Alors les accords de paix de Minsk, le premier en 2014, le deuxième en 2015, ils étaient censés mettre en place des cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il reste de ces accords internationaux aujourd'hui?
Pas grand-chose en réalité. Il reste toujours présent et il reste toujours évoqué comme le cadre de référence pour trouver une issue du conflit. Et on continue à exiger de la Russie qu'elle respecte ses engagements dans le cadre des accords de Minsk, qu'on continue à demander de l'Ukraine qu'elle respecte ses engagements, mais en réalité, là aussi, personne ne s'attend vraiment à beaucoup d'avancées sur ce terrain-là, puisque au départ, les accords de Minsk, surtout les accords de Minsk 2, qui ont été politiquement plus importants, ils étaient censés être mis en œuvre avant la fin de l'année 2015, ce qui devait permettre alors un retour à la paix et une levée des sanctions occidentales à l'égard de la Russie. La fin de l'année 2015 est passée, la fin de l'année 2016 même est passée. Pas grand-chose n'a été vraiment, vraiment fait. Il n'y a pas eu d'avancée diplomatique parce que finalement, aucun des deux n'a vraiment envie de s'engager là-dedans. L'Ukraine considère que les accords de Minsk lui sont très défavorables et que donc, si elle accepte tout cela, elle risque de perdre plus au final. Et la Russie, finalement, elle se satisfait très bien de la situation actuelle d'un conflit gelé. C'est quelque chose qu'elle connaît bien, c'est quelque chose qui lui permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre au niveau politique, au niveau militaire et même diplomatique, que si elle respectait des accords qu'elle n'a pas tout à fait intérêt à respecter pleinement. Et d'ailleurs, on n'est même pas sûr que maintenant, la Russie pourrait tout à fait contrôler l'évolution du conflit, puisque les insurgés sont sur le terrain, ils sont soutenus par Moscou, mais ils n'obéissent pas totalement à Moscou, ils ne sont pas des marionnettes de Moscou, ce qui fait que là, on a des dynamiques particulières sur le terrain qui échappent parfois aux chancelleries russes ou occidentales ou ailleurs.
Mais alors, quelles sont les perspectives d'un règlement du conflit ukrainien ?
Pour le moment, on va vers un conflit qui ressemblera de plus en plus au conflit, aux deux conflits en Géorgie et au conflit en Moldavie et au Karabakh aussi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire un conflit où il n'y a pas tellement de choses qui se passent sur le terrain, il y a moins de violence, même si on est toujours dans un état de guerre latent, mais où aucune des parties au conflit n'a vraiment envie ou n'a vraiment la volonté ou les moyens de faire plus et où chacun s'habitue finalement à une situation et chacun y trouve quelque chose, parvient à vivre avec. On est dans une situation où tant que la violence ne recommence pas au même niveau qu'elle était durant le printemps et l'été 2014, eh bien tout le monde se dira que c'est finalement pas plus mal qu'on garde cela, qu'on garde une région relativement contenue avec une certaine stabilité, parce que la résolution du conflit paraît tellement compliquée et les acteurs qui sont impliqués manquent tellement de volonté ou de moyens qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait y arriver.
Mais pour les Européens, ce n'est pas une situation très satisfaisante. Pourtant, ils ont quand même été obligés de sanctionner la Russie pour bien montrer leur position aussi il y a 3 ans.
Tout à fait. C'est extrêmement dommageable pour l'Europe, non seulement parce que sa crédibilité diplomatique a été engagée par son action, non seulement parce qu'on est là avec un pays qui est quand même à la frontière de l'Union européenne. On a très récemment eu un accord de levée de visa entre l'Ukraine et l'Union européenne, ce qui va permettre d'encourager et de renforcer le rapprochement entre Kiev et Bruxelles et de renforcer les contacts, mais on est toujours dans un pays qui est dans une situation de guerre latente. Le problème, c'est que les Européens, là, il manque clairement de volonté politique pour mettre une pression plus importante tant sur l'Ukraine que sur la Russie. Et donc ils essayent un petit peu, on a encore des discussions sous le format Normandie, on a encore des discussions bilatérales de temps en temps, et on discute de l'Ukraine, on en discute beaucoup, mais personne ne voit vraiment ce qu'on pourrait faire pour changer la donne, et en tout cas, en Europe, c'est plus la priorité, et il n'y a pas assez de volonté politique au sein des États membres pour véritablement essayer d'avoir un impact sur le terrain. On a l'impression que ça nous échappe, qu'on n'est pas suffisamment fort pour gérer ça, et que le conflit est entièrement aux mains de la Russie et de l'Ukraine, et du coup, on évite de trop s'impliquer là-dedans, parce que la complexité est telle que les Européens ne savent pas très bien comment, ou ne veulent pas vraiment s'impliquer.
Alors là, on parle de l'Est de l'Ukraine. Il y a aussi la question de la Crimée. Pourquoi est-ce que la Crimée, qui a été annexée en 2014 par la Russie, c'est encore une situation différente des zones de l'Est ?
Ben, on est dans une autre situation au point de vue diplomatique, même si dans les faits, la Crimée, elle est occupée par la Russie. Le Donbass, il n'est pas occupé directement par la Russie, mais il est occupé par des insurgés qui sont équipés par la Russie et qui sont en partie, pour certains, dirigés par des officiers russes. Mais alors la Crimée, la différence se fait aussi au niveau du statut, puisque la Crimée a été annexée formellement par la Russie, dans un événement qui n'a été reconnu finalement par quasiment personne dans le reste du monde, mais peu importe, on est dans une espèce de zone grise diplomatique dans ce sens-là, où la Crimée, elle appartient à la Russie. Personne ne renie le fait que maintenant la Crimée fait partie de la Russie, mais officiellement, diplomatiquement, juridiquement, c'est encore considéré comme un territoire de l'Ukraine, et à ce titre, occupé illégalement par la Russie. Mais politiquement, personne ne se dit que la Crimée reviendra à l'Ukraine. Ça, c'est impossible. Et on en parle encore. On dit encore qu'il faut que la Russie rende la Crimée à l'Ukraine pour lever les sanctions, etc. Mais c'est un peu, ce sont des discours. On sait très bien que ça n'arrivera jamais. Par contre, le Donbass, là, il y a une possibilité. Là, il y a une possibilité de trouver une solution. Il y a une possibilité d'essayer de mettre une pression éventuellement sur la Russie pour qu'elle retire ses propres troupes, pour qu'elle arrête de soutenir les forces rebelles sur le terrain et qu'on puisse parvenir à un accommodement entre ces forces rebelles sur le terrain et le gouvernement ukrainien.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.